Bonjour, merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter. Merci, chers auditeurs, de nous être fidèles tous les week-ends. Vos rendez-vous du samedi jusqu'à 13h sur Inter, le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein. Et puis, l'héritage des Lumières, l'universel, les droits de l'homme en débat. Drôle d'époque que nous vivons. Jamais nous n'avons été aussi conscients de former une seule humanité. Nous savons que nous sommes exposés aux mêmes risques planétaires. Épidémie, réchauffement climatique, extinction des espèces, mondialisation de l'économie. Et pourtant, alors qu'elle semble s'imposer dans les consciences, l'unité de l'humanité recule dans les représentations collectives. Partout, les mêmes replis identitaires, nouveaux nationalismes, nouvelles xénophobies, nouvelles radicalités religieuses, nouvelles revendications communautaristes. Ces mots sont signés du philosophe Francis Wolff et il formule ce paradoxe, mais est-ce un paradoxe, dans un livre passionnant, Plaidoyer pour l'universel. Plaidoyer ou combat perdu d'avance pour défendre les idées, les idéaux universalistes. Nous en débattrons avec lui dans une vingtaine de minutes. Rendez-vous donc avec Francis Wolff juste après le duel.
France Inter. Le grand face-à-face. Ali Badou.
Avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver, heureux de vous savoir réjoui par la lecture de Plaidoyer pour l'universel, le livre de Francis Wolff. Nous ouvrirons donc le débat avec lui tout à l'heure. Mais d'abord, retour sur l'actualité de la semaine.
Je ne suis certes pas maire d'une commune de France, mais je me sens chaque jour un peu plus à votre contact maire de la commune France, c'est-à-dire à la fois gardien de l'essentiel, l'unité de la nation, et du quotidien concret, des vies, de la dimension humaine qui, à la fin, doit guider toute action publique.
Le président de la République, c'était mardi dernier au congrès des maires de France. On sait que la relation a été longtemps compliquée entre Emmanuel Macron et les maires. Il se dit maintenant l'un d'entre eux, Gilles, maire de la commune France. Comment recevez-vous ces mots?
Oui, les relations ont été compliquées, vous avez raison. Au premier congrès de l'AMF, de l'Association des maires de France qui a suivi son élection, Emmanuel Macron a été chahuté. L'année dernière, le président de la République a boudé les maires. Et donc, après le grand débat où il s'est beaucoup appuyé sur les maires, le congrès qui s'est tenu cette semaine devait être celui d'un nouveau départ, d'une réconciliation et des retrouvailles. Et on a entendu dans cet extrait la volonté du président de la République. Je crois qu'il a réussi à pacifier, mais qu'il n'a pas réussi à les convaincre. Et qu'il faut s'interroger pourquoi. Il y a sans doute des raisons circonstancielles. Le discours était très long, peut-être même était-il trop long, et je crois que à un moment il faut finir par se convaincre que la durée d'un discours n'est pas proportionnelle à son impact, et qu'un discours trop long finit par être contre-productif, même s'il a voulu répondre à toutes les questions que se posaient les maires. Et une deuxième raison qui est que les contentieux étaient sans doute trop lourds, que la suppression de la taxe d'habitation et la crainte de la fin de l'autonomie fiscale restent en travers de la gorge des maires. Mais l'essentiel, je crois, n'est pas là et je crois qu'il faut s'interroger sur les causes les plus profondes. Et je crois qu'il y a un malentendu qui est presque un malentendu d'ordre culturel entre les maires et Emmanuel Macron. Il lui reproche une approche trop financière de tous les sujets, c'est-à-dire de considérer qu'ils sont trop nombreux, que leur collectivité coûte trop cher et ils souffrent d'un manque à la fois de connaissance de ce qu'ils font et de reconnaissance pour ce qu'ils font. Et puis, je termine par là, je crois qu'il y a au fond une divergence idéologique où on découvre, où ils découvrent, les maires, que celui, le libéral girondin qu'ils attendaient est en fait beaucoup plus qu'ils ne le pensaient un jacobin étatiste. On a, donc, après les élections municipales, un nouveau projet de loi qui doit arriver, qui est en cours de préparation, qui s'appelle le projet 3D pour décentralisation, déconcentration et différenciation. Eh bien, on va voir si c'est là aussi un acte 2 du quinquennat et si le Macron 2 sera plus décentralisateur.
Natacha.
Je vais le dire de manière peut-être un peu plus brutale que Gilles. Emmanuel Macron est un de ces énarques qui considèrent que 36 000 communes, c'est ringard. Que, en gros, tous les pays équivalents à la France en ont beaucoup moins et que donc, ça ne sert à rien. Et il fait partie de ceux qui, depuis des années, veulent réduire le nombre de communes sans se demander en quoi cette organisation administrative reflète en fait une dimension à la fois historique, culturelle et géographique. Donc je pense que les maires sentent très bien, en effet, comme le disait Gilles, que Macron est un jacobin, mais c'est un jacobin gestionnaire, c'est un jacobin tendance Bercy.
Se dit maintenant l'un d'entre eux quand il dit alors, je suis maire de la commune France.
Bon, il n'aura échappé à personne qu'il y a des élections municipales bientôt, qu'il y a eu en effet un mouvement des gilets jaunes qui a permis à Emmanuel Macron de découvrir tout à coup que c'était quand même assez utile d'avoir des corps intermédiaires et qu'en effet, son spectacle du grand débat aurait eu beaucoup moins d'effet s'il n'y avait pas eu des maires pour lui permettre de justement se mettre en scène et lui rappeler que la discussion civilisée est quelque chose de pas mal en démocratie. Donc, simplement, derrière la question de l'organisation administrative, il y a la question démocratique. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, culturellement, n'a jamais pris conscience et n'a jamais pensé ce qu'est la démocratie locale et comment la démocratie locale permet ensuite de reconstruire tous les échelons jusqu'au national. D'abord parce qu'il ne connaît pas. En effet, ce n'est pas sa culture, il ne sait pas ce que c'est que le travail d'un maire. Il le voit en termes de coûts.
Il n'a jamais été élu local.
Bien sûr, il le voit en termes de coûts, Gilles a raison, et il ne réfléchit pas à tous ces conseillers municipaux qui sont bénévoles et qui administrent ce pays gratuitement. C'est absolument majeur. On va remplacer ça par quoi? On est en train de remplacer ça par des intercommunalités qui sont des usines à gaz qui permettent aux métropoles d'aspirer tout ce qui est de tirer profit de tout ce qui appartient aux communes alentour. Bref, c'est une organisation absolument catastrophique et je pense que la réflexion sur les échelons démocratiques est urgente.
Gilles. Peut-être un complément ou un pas de côté par rapport à ce que dit Natacha Polony, parce que le problème, je crois, n'est pas seulement, ou n'est même peut-être pas d'abord Emmanuel Macron. Vous avez raison de souligner que la vraie spécificité française par rapport à tous les autres pays de l'Union européenne, peut-être la spécificité la plus visible, la plus marquante, ce sont ces 35 000 communes. On entend souvent...
Oui, je dis 36 000, en fait, c'est 35 000.
La France compte davantage de communes que l'ensemble des autres pays de l'Union européenne réunis. Derrière ces 35 000 communes et donc ces 35 000 maires, ce sont 500 000 conseillers municipaux. Et c'est plus de 1 million de candidats aux élections municipales. Ce n'est pas un problème, c'est une chance extraordinaire. C'est pas seulement le reflet d'une histoire, d'une culture, d'une géographie. Dans un pays qui est moins syndiqué que les autres, c'est 500 000 Français qui sont, le plus souvent de manière bénévole, au service de leurs concitoyens et du lien social.
Et donc si on compte le nombre de candidats, 1 million, donc 1 million de personnes qui se sentent intéressées ou suffisamment intéressées pour s'investir dans la vie démocratique de leur commune, c'est ça votre argument?
Pas 1 million, Libadou, c'est 3 ou 4 millions de familles qui sont concernées, parce qu'un Français sur 10 qui est impliqué dans les élections municipales. Ça ne se voit nulle part ailleurs. Or, il y a un profond malaise des maires, puisque la dernière enquête montrait que la moitié d'entre eux envisageaient de ne pas se reproduire. On est à 60% dans les communes. Sans doute, y a-t-il le fait que ce mandat est de plus en plus dur en raison des relations avec l'État qui demande de plus en plus et qui donne de moins en moins. Mais il est de plus en plus dur aussi en raison des relations avec les citoyens. Et c'est une réflexion pour chacun d'entre nous qui demande tout, tout de suite, tout le temps. Et il y a une forme de despotisme des citoyens, je l'évoquais aussi, un despotisme des consommateurs quand on parlait la semaine dernière des plateformes. Et je crois que ça oblige chacun à s'interroger sur son propre rapport à la politique et à ses élus.
Natacha.
Mais justement, ce qui est très important en effet, c'est de se demander en quoi ce consumérisme qui aujourd'hui est en train de se développer, même vis-à-vis des maires qui sont les élus pourtant préférés des Français, en fait ce consumérisme est en train de grignoter petit à petit la démocratie et de détruire le sentiment d'être citoyen, l'implication en tant que citoyen de chacun de nous. Sauf que si on s'imagine que c'est en éloignant encore plus le pouvoir politique qu'on va résoudre le problème, je pense qu'on rêve. La réforme territoriale de François Hollande, par exemple, en créant des méga-régions qui ont été réfléchies en dehors, de toute référence historique, géographique, à la vie des gens, à leur organisation, c'est une catastrophe. On s'aperçoit que ça coûte beaucoup plus cher que ce qu'on pensait. Et ça aboutit, là aussi, à aspirer le pouvoir dans des grosses métropoles. À partir du moment où vous éloignez les gens des décisions de pouvoir, vous renforcez ce réflexe consumériste, ce besoin de réclamer à une autorité suprême ce qui vous est dû. Et je pense que c'est le contraire de l'organisation en une communauté, une collectivité, comme peut l'être une commune aujourd'hui.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Je ne crois pas qu'il soit acceptable de dire qu'on va régler le problème en baissant les pensions. Et je ne crois pas qu'il soit acceptable de dire qu'on va régler le problème en augmentant les cotisations retraite des actifs d'aujourd'hui. Mais en tout état de cause, ce qu'on peut dire, c'est que si nous voulons équilibrer le système des retraites, il faut dire aux Français, clairement, tranquillement, le faire progressivement, que nous allons travailler plus longtemps.
Le Premier ministre Édouard Philippe, il était l'invité de la matinale de France Inter ce jeudi. Vous accusiez le gouvernement de ne pas être suffisamment clair sur la réforme des retraites. C'était dans les émissions précédentes. Est-ce que là, ça s'éclaircit, Natacha ?
J'ai écouté le Premier ministre, en effet. Il était posé, il était calme, il s'exprimait bien. Tout ça était très, très civil. Je n'ai toujours pas compris.
Non.
C'est-à-dire que je pense avoir compris qu'il fallait en discuter avec les partenaires sociaux. Et que donc, on allait continuer à discuter. Que donc on allait continuer à se demander
mais vous venez de dire
ce qu'on allait faire.
L'exécutif avait oublié les corps intermédiaires. Qu'un premier ministre dise qu'il allait consulter les corps intermédiaires et notamment les partenaires sociaux, c'est ça... pas une bonne nouvelle.
Oui, justement, ça veut dire qu'ils ont compris qu'il y avait un léger point d'achoppement et que il y avait un petit risque de mouvement. Mais peut-être que Gilles va m'éclairer. Pour ma part, je suis assez étonnée de voir à quel point, à chaque fois que j'entends l'exécutif s'exprimer sur cette réforme des retraites, j'ai l'impression qu'on repart à zéro et qu'on remet tout en jeu et qu'on rediscute de tout, alors que je croyais qu'il y avait eu quelques concertations.
Gilles ?
Oui, je pense que cette réforme est une réforme qui mérite d'être étudiée. C'est sans doute le sujet le plus important à la fois pour les Français et pour Emmanuel Macron. Pour les Français, parce que par rapport à un travail, à une vie qui sont de plus en plus dures, il y a une espèce d'horizon d'attente un peu mythifié autour de la retraite. Et pour Emmanuel Macron, parce que avec cette réforme se joue l'image réformatrice de son quinquennat et qu'il ne peut ni l'abandonner, ni même trop procrastiner. Si la réforme finit par, on commence à l'appliquer dans 10 ans ou dans 20 ans pour le régime général et pour les régimes spéciaux, c'est dans 40 ans, tout ça apparaîtra comme un leurre. Donc, on est pour un sujet absolument déterminant pour les uns et pour les autres, mais avec des attentes qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Moi, ce qui me frappe, c'est que de semaine en semaine, l'avancée de ce dossier se complexifie chaque jour davantage.
Ah oui ?
Elle se oui, pour des raisons...
On sait qu'on va travailler plus longtemps dans la vie, c'est ce que disait le Premier ministre à l'antenne d'Inter, soit par la durée de cotisation, soit par une mesure d'âge.
Oui.
L'alternative est là.
Alors, elle se complexifie pour des raisons sociales. Dans quelques jours, il y aura une manifestation et une grève le 5 décembre qui peut être un moment de convergence de mécontentement extrêmement divers. Pour des raisons financières, puisque cette semaine même, il y a eu le rapport du Conseil d'orientation des retraites qui confirmait ce qu'il disait dans le précédent rapport, mais qui était en contradiction avec ce qu'il disait précédemment et ce sur quoi s'était appuyé le président de la République, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de problème financier à un horizon court pour les retraites. Et surtout, et c'est là où je rejoins un peu ce que dit Natacha, il y a une raison d'ordre psychologique. J'ai l'impression qu'on est dans une sorte de cercle vicieux où plus ça va, plus on attend parce qu'il y a la concertation ou parce qu'il y a des élections municipales ou un peu peut-être pour les deux, plus on est dans le flou, plus ce flou existe et plus les inquiétudes et les craintes augmentent, plus le gouvernement est dans l'incapacité de défendre un projet qui n'existe pas. Et peut-être que c'est le paradoxe ultime. On a reproché beaucoup, et souvent à raison, à Emmanuel Macron de ne pas suffisamment concerter. Peut-être qu'à un moment, il faut qu'il clarifie.
Et juste un point, je l'ai peut-être déjà rappelé dans cette émission, mais la question des retraites est liée à la question de savoir combien il y a de gens au travail pour payer les retraites de ceux qui ne travaillent plus. Donc la question de savoir combien il y a de gens au travail est absolument essentielle. Et elle est peut-être plus importante que la question de savoir à quel âge, comment, etc. Combien de gens au travail ? Il y a d'autres manières qu'en jouant sur les retraites elles-mêmes de modifier cette assiette-là. Il y a la question de l'entrée sur le marché du travail, il y a la question du chômage de masse, et je pense que ça devrait être mis en avant parce que c'est au moins aussi important que de savoir si on bouge le curseur de l'âge pivot ou les choses comme ça. Nous sommes en train de crever tout simplement du chômage de masse.
Gilles, Natacha a raison, c'est la question de savoir combien de gens sont au travail est évidemment absolument déterminante. Il n'en demeure pas moins qu'à un moment il y a des réalités démographiques aussi. La France, comme beaucoup d'autres pays européens et comme beaucoup d'autres pays dans le monde, connaît un vieillissement très important de sa population, et donc le rapport entre le nombre de cotisants et le nombre de retraités est évidemment un paramètre décisif, avec cette grande difficulté, c'est que lorsqu'on demande aux Français quel est pour eux l'âge idéal pour partir à la retraite, ils disent 60 ans, que l'on est déjà au-delà de 62, et que quand on entend le Premier ministre, eh bien, on risque plus fort d'aller au-delà.
Natacha.
Certes, mais la question de la nature du travail, travail précaire ou non, la question des détournements de toutes les obligations en matière de cotisation sociale joue aussi. C'est-à-dire que on laisse se développer un système qui permet de contourner ces obligations, qui permet par exemple de faire travailler de faux auto-entrepreneurs pour limiter les frais pour les entreprises. On permet à certains de ne pas payer d'impôts en France, etc. Il y a tout ce mécanisme qui aboutit à ce qu'on soit obligé avant tout de jouer sur la question des retraites.
D'un mot quand même, puisqu'on va bientôt passer au sujet d'après, mais que pensez-vous de la manière dont la plupart des journaux, des télés parlent de cette mobilisation prévue pour le 5 décembre ? On la présente, personne n'est prophète en ce pays, on ne sait pas si elle sera suivie, si elle sera la grève, si elle sera reconduite, et pourtant on la présente comme un mur. On dit en off que dans les coulisses, le gouvernement a appréhende ce rendez-vous-là. C'est curieux malgré tout de se voir confronté à quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, mais qui suscite autant d'inquiétude, Natacha.
Parce qu'on sent bien qu'il y a un climat actuellement qui est un climat de colère extrêmement profonde, qui est en train de s'enquister, j'allais dire, dans le pays. Et en face, le gouvernement a intérêt aussi à dramatiser. Pourquoi ? Parce que si la mobilisation est moindre, ce sera tout bénéfice. Ça permettra en effet de dire qu'on a dépassé cela alors que l'opposition était énorme. Et si, en revanche, c'est véritablement un gros mouvement, là, le gouvernement pourra nous expliquer que ça bloque le pays, que ça prend en otage, etc. Donc la logique...
Oui. Quand dit le spécialiste de l'opinion.
La formule du mur du 5 décembre, c'est une formule de conseiller de l'Élysée ou de Matignon. Donc c'est l'exécutif lui-même qui utilise cette formule. Il y a un climat, Natacha a raison de le souligner, et puis il y a un sujet. C'est un sujet qui typiquement peut faire converger des insatisfactions contradictoires.
France Inter. Le grand face-à-face, le duel.
On trouve et on juge que cette décision est absolument scandaleuse et irrespectueuse. On se sent trahi, on a fait un boulot énorme par rapport à un cahier des charges très précis. On a répondu, ce cahier des charges qui a été gagné par la France, on y est peut-être un tout petit peu pour quelque chose. Mais ce partenariat unique de Airbnb, main support.
C'était Roland Aigui, le président de l'Union des métiers de l'hôtellerie, le principal syndicat patronal hôtelier. Il était sur Inter jeudi. Il s'indignait du contrat de sponsoring entre Airbnb et le Comité international olympique. Indignation qui se diffuse également à la mairie de Paris avant les JO de 2024. Vous vouliez l'un et l'autre revenir sur le sujet. Vous comprenez sa colère ?
Alors, nous venons de parler de la question des retraites et j'avais appuyé sur la question des cotisations sociales. Qui paye les cotisations sociales ? Qui respecte les règles du jeu. Là, vous avez des hôteliers qui, eux, payent des cotisations sociales très chères, qui offrent un service en échange, et qui sont petit à petit fragilisés, pour certains ruinés, par un service Airbnb qui prétend n'être que de la mise en relation d'individus. Or, Airbnb a ouvert un service de conciergerie sur Paris et ailleurs aussi. Donc, il fait bien de l'hôtellerie. Juste une petite remarque, je l'ai écrit dans mon édito de Marianne de cette semaine parce que ça me semble intéressant. 148 000 euros, c'est quoi ? C'est par exemple le prix d'un camion poubelle pour une commune. 148 000 euros, c'est la somme d'impôts payée par Airbnb en France en 2018. Mmh. Oui, 148 000 euros. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ne payent que sur les services marketing. Tout le reste est en Irlande.
Gilles ?
Oui, Natacha a raison et ce chiffre est évidemment saisissant. Bon, alors Airbnb ne vend pas des armes ou des cigarettes, mais il y a un problème avec ce sponsoring et il y a une question avec Airbnb. Ce problème avec Airbnb se pose partout. Beaucoup de grandes villes sont en train de réfléchir à la manière de réguler ce nouveau service. Il y a 65 000, 70 000 Airbnb à Paris, c'est-à-dire quasiment autant que l'offre hôtelière. Que ça vient déstabiliser le secteur de l'hôtellerie, on voit le mécontentement de son président, que ça crée des tensions sur le marché de l'immobilier, qui déjà est un marché extraordinairement tendu à Paris, puisque les gens les plus fortunés ou peuvent investir pour avoir un bien qu'ils n'utilisent que pour le louer par Airbnb. Ça accentue de ce fait d'ailleurs les inégalités. Donc la question n'est pas de l'interdire, mais la question est de savoir comment on fait pour le réguler.
Vous oubliez de dire que ça satisfait aussi beaucoup de personnes qui utilisent Airbnb.
Énormément de personnes, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle ça marche. Mais ça pose pas seulement la question de Airbnb, ça pose aussi la question du CIO. Or, le CIO est souvent très exigeant avec les autres, dans les contraintes qu'il impose, notamment aux villes qui veulent organiser les Jeux, et il est très bénévolent avec lui-même. C'est-à-dire que, aussi bien dans le choix de ses sponsors, dans l'impact de ses sponsors, dans la vie des gens, dans le choix de ses sponsors sur les Jeux Olympiques, puisque une fois que Airbnb est le partenaire, non pas pour les JO de Paris, mais pour les 6 prochaines années, ça veut dire que d'autres grands groupes hôteliers ne peuvent pas l'être. Et enfin, quand même, se préoccupant assez peu de l'impact sur un pays, parce que ce chiffre de 150 000 euros d'impôts payés en France, c'est quand même aussi un gros problème.
Natacha Polony.
Tout simplement, le CIO n'est clairement pas une entreprise philanthropique, ça on le savait. Ils ne sont pas très regardants sur l'éthique, sur la morale. En revanche, nous sommes des citoyens. Ali, vous disiez ça satisfait beaucoup de personnes. Bien sûr, mais c'est tout le paradoxe qu'il y a entre notre satisfaction de consommateur et notre conscience de citoyen. Or, pour nous éviter de nous retrouver tous face à ce dilemme moral qui devrait en effet nous torturer, vous torturer, Ali.
Oui.
J'y insiste. Mais pour vous éviter ce dilemme.
J'ai l'avantage d'être parisien pour le coup, donc les JO de 2024 ne me poseront pas de problème.
Non, mais les suivants, oui. Eh bien, pour éviter cela, il existe quelque chose qui s'appelle le politique. C'est-à-dire que c'est à l'échelle politique qu'il faut réguler et qu'il faut éviter que puissent exister des systèmes qui permettent à Airbnb de ne payer que ses impôts en Irlande. Ça doit aussi relever du bras de fer avec des multinationales qui sont déterritorialisées, mais dont beaucoup sont américaines et qui contournent les règles communes.
D'un mot, Gilles, avant de passer au débat.
Oui, juste d'un dernier mot. Il y a une régulation de l'impôt pour faire en sorte que l'ensemble des entreprises payent leurs impôts en France, et ça ne pose pas seulement la question d'Airbnb, puis ça pose la question spécifique d'Airbnb. Ce qui s'est passé par exemple à Los Angeles, où on peut louer seulement sa résidence principale, et donc éviter ce que j'évoquais tout à l'heure. Ce qui se passe à Amsterdam, où c'est 30 jours seulement maximum par Airbnb, eh ben c'est d'autres moyens de régulation de ce service que par ailleurs on est très heureux de pouvoir utiliser.
Vous l'avez dit, vous l'avez avoué, Gilles, à suivre dans le grand face-à-face sur France Inter, le débat avec le philosophe Francis Wolff.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
Et si c'était le grand paradoxe de notre époque, il est formulé dans un livre passionnant qui vient de paraître. Et voici ce qu'on peut y lire. Jamais nous n'avons été aussi conscients de former une seule humanité. Nous savons que nous sommes exposés aux mêmes risques planétaires, réchauffement climatique, extinction des espèces, mondialisation de l'économie. Et pourtant, alors qu'elle semble s'imposer dans les consciences, l'unité de l'humanité recule dans les représentations collectives. Partout, les mêmes replis identitaires. Nouveau nationalisme, nouvelle xénophobie, nouvelle radicalité religieuse, nouvelle revendication communautariste. C'est l'analyse que fait le philosophe Francis Wolff, professeur émérite à l'École normale supérieure. Il a marqué des générations d'étudiants et il publie chez Fayard Plaidoyer pour l'universel. Plaidoyer ou combat perdu d'avance pour sauver l'héritage des Lumières, l'humanisme, les droits de l'homme, comment défendre les idées, les idéaux universalistes. On va en débattre avec lui. Bonjour Francis Wolff.
Bonjour Ali Badou.
Et bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Hâte de vous entendre échanger avec Gilles et Natacha, mais d'abord, campons le décor, ce paradoxe fondateur. Comment en est-on arrivé là? Comment se fait-il que les mots d'humaniste, de droit de l'homiste sont quasiment devenus des insultes dans la bouche de beaucoup, beaucoup d'intervenants dans l'espace public ?
Alors, il y a beaucoup de causes différentes. La première explication qui vient à l'esprit, c'est que, en fait, ça n'est pas un paradoxe. L'un est la conséquence de l'autre. C'est-à-dire que, à force de vouloir globaliser, on uniformise et que chacun se replie sur ses petites différences pour résister à la globalisation. Alors, c'est une interprétation souvent avancée, que je pense en partie vraie, mais seulement en partie. Je pense qu'il y a des raisons plus profondes. Je pense, par exemple, que l'idée d'humanité recule partout. On n'en connaît plus les limites, par exemple. Parfois, on l'élargit jusqu'à tous les êtres sensibles, les animaux, ce serait ça, donc l'universel ne serait pas assez universel, ou parfois on la restreint en disant au fond, l'universel est trop universel, il oublie les particularismes, les identités
locales. Ça c'est une vieille critique contre les droits de l'homme par exemple.
Bien sûr, c'est la critique, c'est une des critiques qui a d'ailleurs des fonds tout à fait opposés. D'un côté il y a une critique marxiste qui est récurrente et qui a sa légitimité. Bien entendu, et par ailleurs, il y a une autre critique, c'est que l'homme est une illusion, c'est une abstraction qui n'a pas de sens. En fait, nous sommes avant tout, eh bien, selon les cas, des Français ou des chrétiens ou des musulmans, mais nous ne sommes pas des êtres humains.
Pour le dire vite, ça c'est l'attaque de droite, par différence avec l'attaque de gauche. Comment expliquez-vous que cette manière de considérer les droits de l'homme, de les critiquer, soit devenue, je ne sais pas si elle est dominante, mais en tout cas si présente dans le débat public ?
Bien, il y a le fait que, il est vrai que d'une certaine manière, ils ont triomphé, ils semblent avoir triomphé dans les idées, c'est-à-dire qu'on ne les remet pas en cause directement, du moins dans nos pays. Et il est vrai, il suffit de regarder un petit peu ce qui se passe tous les jours, que les gens qui se battent en Iran aujourd'hui, ou en Irak, ou en Égypte, ou pourquoi pas au Chili, au fond, on va retrouver des vieilles revendications qu'on peut mettre au titre des droits de l'homme ou au titre des valeurs universelles.
Mais moins en Occident, moins en France, par exemple,
oui,
moins en Europe.
Parce que on pense, on affirme souvent que bien les droits de l'homme, au fond, sont une façon soit trop abstraite de considérer les problèmes politiques, soit de les moraliser à l'extrême alors que les problèmes politiques doivent être posés en d'autres termes, soit tout simplement c'est qu'ils s'écrasent des identités essentielles.
Natacha Polony.
Alors d'abord en préambule, j'aimerais vous dire que vous avez écrit le livre dont je rêvais, que j'attendais et qui répond pour moi à la question la plus essentielle aujourd'hui, c'est-à-dire la destruction de toute possibilité de débat démocratique du fait des différentes attaques que vous évoquez, qui sont en train donc de mettre à mal cette notion d'universalisme. Et je pense que au cœur de votre livre, il y a la question qui, moi, me frappe à chaque fois que je regarde l'actualité, les débats d'actualité, qui est la question de la place de la raison. La rationalité, la possibilité de se mettre d'accord sur ce que nous voyons, ce que nous pouvons savoir. Et d'ailleurs, à la fin du livre, vous arrivez aussi à cette question de la place de la science. Enfin, j'aimerais que vous expliquiez comment se joue ce lien entre notre vision de l'humanité et la place de la raison là-dedans.
Oui, vous avez raison, parce que c'est un plaidoyer pour l'universel et pas simplement pour l'universalité des droits humains. Et dans l'universel, je mets aussi ces grandes valeurs, avec un grand V, humanistes héritées des Lumières, que sont en effet la raison et que sont la science. Et évidemment, le pouvoir de la science, on dit que le pouvoir de la science recule dans les consciences, mais en même temps, regardez par exemple ce que disent les nouvelles générations. Elles disent « écoutez les scientifiques ». Le GIEC, qu'est-ce que c'est ? C'est le pouvoir de la science contre l'industrie. C'est le pouvoir de la science contre la technologie ou contre les progrès technologiques aveugles. Donc, tout ce qu'on nous a raconté depuis une ou deux générations, la technoscience qui obéissait au complexe militaro-industriel, etc., comportait sans doute une part de vérité, mais la science, j'allais dire la science pure, en tout cas celle qui nous éclaire, c'est grâce à elle que nous savons tous ces dangers. Et par ailleurs, vous avez raison, je veux réhabiliter aussi la raison, mais peut-être dans un sens un peu nouveau, et c'est peut-être l'apport de ce livre, la raison que j'appelle la raison dialogique, c'est-à-dire la raison en dialogue, la raison qui fait que nous sommes des êtres humains, précisément parce que nous sommes en train de faire en ce moment. Nous dialoguons, nous débattons.
Et pour cela, il faut justement s'appuyer sur une base commune. Or, ce que vous montrez bien, c'est que le règne de l'émotion interdit le dialogue, puisque c'est sur cette émotion que s'appuient ceux qui, finalement, nient aujourd'hui l'universel, puisque leur argument consiste à dire, en gros, nous sommes tous différents, mon émotion, ma vision du monde, la façon dont je ressens les choses prévaut sur ce qui nous rend semblables.
Oui, alors il y a une valeur positive de l'émotion. Si nous sommes en partie des êtres moraux parce que nous sommes capables de nous indigner, et l'indignation est une émotion morale essentielle qui est tout à fait différente de la réaction de ressentiment, de colère. Je m'indigne pour des choses que je juge objectivement injustes. Mais l'idée d'injustice et l'idée de justice elle-même ne relève pas de l'émotion. Elle relève de la raison et de concepts comme ceux d'égalité, de réciprocité, qui eux sont rationnels et qui ne sont pas de la pure émotion.
Ou d'hospitalité, si l'on songe par exemple à ceux qui demandent, qui interpellent les gouvernements pour qu'on puisse sauver ceux qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie, ça c'est une idée aussi, alors qui naît peut-être d'une émotion, mais qui revendique une universalité et qui se heurte au front des nations, des identités qui n'en veulent pas.
Tout à fait. C'est en effet une autre façon de concevoir l'universel et les valeurs universelles. Là encore, on peut distinguer les réactions émotionnelles qui se manifestent surtout lorsqu'on voit une photographie avec un gamin sur la plage, mais qui oublie tout cela relève uniquement de chiffres, de statistiques, et lorsqu'il faudrait faire appel à des notions plus générales comme celle de justice.
Gilles Finkelstein.
Ali Badou disait tout à l'heure que vous aviez marqué des générations d'étudiants. Je n'ai pas été votre étudiant, mais je suis depuis de nombreuses années votre lecteur. Je voudrais enchérir sur la déclaration d'amour de Natacha. À la fois sur l'auteur, c'est-à-dire je trouve qu'il y a la puissance de l'argumentation et la clarté d'exposition sont vraiment un plaisir à chaque fois qu'on lit vos livres, et sur la diversité des sujets que vous avez abordés dans votre œuvre, et évidemment sensibilité toute particulière à la thèse et au thème de celui-là, à ce plaidoyer pour l'universel.
Parenthèse, c'est la première fois que ça arrive depuis 3 ans que cette émission existe, Francis Wolff. C'est extrêmement rare d'entendre Natacha et Gilles dire à ce point à quel point un livre a pu les passionner, une théorie les fasciner.
Alors, si la lecture devrait être donc une obligation, quand même des questions. En tout cas, une question peut-être en prolongement de ce que vient de dire Ali Badou. Vous plaidez pour le cosmopolitisme. La question que je me pose est comment le cosmopolitisme se dissout ou pas quand il rentre dans l'atmosphère et dans l'atmosphère politique. Notamment, comment l'humaniste traite la question de la nation qui est devenue, en tout cas, le cadre principal à la fois de la démocratie et de la solidarité. Et comment l'humaniste traite la question de l'opinion, notamment sur la question de l'immigration. Est-ce qu'il y a un moyen de légitimer, sur le plan des valeurs, une régulation de l'immigration?
Ce sont des questions difficiles. Le philosophe n'a pas réponse à tout, et en particulier à celles qui relèvent aussi de l'opinion des citoyens. Alors, je plaide pour le cosmopolitisme, plutôt d'ailleurs dans mon dernier livre, 3 utopies contemporaines, que dans...
Non, mais c'est un livre de combat, Francis Wolff, en l'occurrence. C'est un livre de combat à la fois pour sauver l'héritage des Lumières, c'est aussi un livre de combat contre les nouveaux nationalismes, les nouvelles xénophobies et les nouvelles radicalités religieuses dont je parlais tout à l'heure.
Je vais donc répondre. Quelle place... comment je définis le cosmopolitisme tel que je le définis la façon suivante. S'il est injuste de discriminer les êtres humains selon leur naissance, il est aussi injuste de les discriminer selon leur lieu de naissance, si tout aussi arbitraire. Donc, a priori, qui analyse la notion même de justice doit arriver à l'idée qu'il n'y a pas du point de vue de la stricte justice, mais je vais venir au problème politique après, du point de vue du concept de justice, il n'y a pas de raison de discriminer celui qui est de l'autre côté de la frontière, du mur ou de la Méditerranée.
Et pourtant,
nous vivons dans des États et non pas dans des nations. Gilles Finkelstein. Mmh. Je fais une grande différence. Nous vivons dans des États qui est le fait que, politiquement, nous ne connaissons pas d'autres formes. Si, il y en a eu. On a pu vivre dans des cités, on a pu vivre dans des tribus, on a pu vivre dans des empires. Aujourd'hui, majoritairement, nous vivons dans des États dont les frontières ne sont pas toujours claires. Pensons au cas de l'Afrique, qui est, dont les frontières sont héritées du colonialisme la plupart du temps, mais qui sont, entre autres, définies par des frontières. La nation, je m'en méfie davantage. J'ai tendance, parfois, à penser, comme certains historiens, que la nation est plutôt le fruit du nationalisme que l'inverse. Parce que la nation se définit tantôt par l'unité religieuse, tantôt par l'unité linguistique, tantôt par l'unité politique, et tantôt par une unité plus ou moins culturelle. Mais ces critères sont, si je puis dire, ne coïncident pas les uns avec les autres.
Mais répondez à Gilles, point... parce qu'il est rare quand même, voire c'est jamais le cas, de voir l'hospitalité guider les politiques, notamment en matière de migratoire.
Alors la question des migrations, est-ce qu'il y a eu un seul discours d'un homme politique, de gauche ou de droite, expliquant que, un, les migrations étaient un phénomène nécessaire et qui allait forcément augmenter, et deuxièmement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ait fait, même de gauche, un discours humaniste sur les devoirs d'humanité. Je n'en ai pas entendu. Bien entendu, on a favorisé un certain type de discours assimilant migration à immigration clandestine, à danger pour tout un tas de raisons, qu'ils soient des dangers du point de vue de l'emploi ou des dangers du point de vue, pourquoi pas, du terrorisme. Mais on n'a jamais tenu ce genre de discours. Par conséquent, on en récolte les, hélas, les fruits les plus mauvais.
Natacha.
Mais il me semble que la question qui se pose, c'est celle de, c'est la question démocratique. C'est-à-dire que, en fait, l'accusation de droit de l'hommisme portée contre les défenseurs de l'universel, pas tous d'ailleurs, mais c'est une des accusations. Il y en a qui viennent de tous les bords. Elle vient du fait peut-être qu'on oublie le citoyen, c'est ce qui doit être défendu comme étant le principe qui permet de penser l'universel, ce sont les droits de l'homme et du citoyen. Le fait que c'est à travers la démocratie, à travers l'exercice démocratique, et le fait donc que le citoyen est autonome, responsable, qu'il est doué de raison et qu'il peut donc débattre démocratiquement, c'est à travers cela que peut se déployer une société véritablement humaniste, me semble-t-il.
Alors, c'est tout à fait vrai si l'on s'en tient à une vieille définition de l'État et du politique qui est en train de déborder de toutes parts.
Alors, c'était la suite
de ma question.
Qui est en train
de déborder par les réseaux sociaux, qui est en train de déborder par la manière dont les nouvelles générations communiquent indépendamment des frontières, qui est en train de déborder par la manière dont circule le capital. C'est en train de déborder parce que les problèmes sont planétaires. Et nous n'avons pas de structure à l'échelle planétaire capable de répondre aux problèmes planétaires. Donc, la démocratie, oui, mais l'opposition entre l'homme et les citoyens
c'est
ne
pas l'opposition,
tient plus.
C'est la complémentarité.
Oui, ne tient plus, à mon avis, et tiendra de moins en moins à l'avenir.
Gilles Finkelstein.
Alors, le social-démocrate que je suis, qui ne représente que lui-même,
j'en suis un autre,
dit oui que les migrations sont nécessaires. Oui, à l'évidence qu'elles vont augmenter et que la crise migratoire que l'on a vécue en 2015 n'est sans doute que le début d'autres crises qui vont arriver et que le changement climatique va encore les approfondir. Troisièmement, que oui, il y a un devoir d'humanité et un devoir d'accueil, notamment pour l'asile. Mais je reviens quand même à ma question. Une fois que l'on a dit tout cela, et quand bien même d'autres plus éminents que moi l'auraient dit, ce qu'ils n'ont pas fait. Une fois que l'on a dit tout cela, est-ce qu'il peut être légitime de fixer des conditions d'accueil pour l'immigration? Et si tel n'est pas le cas, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est gérable d'un point de vue politique?
Francis Wolff.
Alors, je pense que c'est un problème posé aux politiques qui, d'une certaine manière, tant qu'on le pose de cette façon-là, est en effet insoluble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution idéale entre les pressions internes, d'une part, des citoyens qui, en effet, alors payent des impôts à un État et qui veulent être à la fois protégés et qui veulent une redistribution à l'intérieur des frontières de cet État, et d'un autre côté, la pression migratoire. Il n'y a pas de solution idéale. Et le rôle du philosophe n'est pas de dire « voilà la solution idéale ». Le rôle du philosophe, c'est de rappeler quelles sont les valeurs et sur quoi elles se fondent. Je prendrai un autre exemple pour aller un petit peu dans le même sens. On a beaucoup parlé cet automne d'un livre remarquable de Thomas Piketty qui montre le progrès des inégalités. Capital et idéologie, qui montre les sources de ces inégalités, qui montre aussi que les inégalités sont un phénomène planétaire international et qui dépasse le cadre des frontières. Admettons tout cela, et j'admire beaucoup ce travail. La question que se pose le philosophe, c'est, au fond, pourquoi l'égalité? D'où vient cette notion d'égalité? Qu'est-ce qui la fonde aujourd'hui? Aujourd'hui que nous ne pouvons plus dire, eh bien, nous sommes tous frères de la même création divine, cet argument qui a longtemps pu servir ne peut plus servir aujourd'hui. Donc le rôle du philosophe, c'est de se poser la question, oui, nous défendons l'égalité, mais pourquoi? Et c'est le travail que, personnellement, j'ai essayé de faire.
Natacha.
Oui, et puis il me semble que, avant la question purement politique, les déclinaisons politiques, il y a dans votre livre, tout simplement, l'idée de redéfinir l'humanisme, parce que, justement, il est attaqué profondément. Et il est attaqué, Ali le disait en préambule, par ceux qui estiment que que l'universel est abstrait. C'est-à-dire que le besoin d'ancrage et d'enracinement, aujourd'hui, se construit contre l'universel. Et il est attaqué aussi, de l'autre côté, par tous ceux qui estiment que, en fait, cet humanisme et cet universel ne sont que un particularisme de l'Occident.
Absolument.
Or, là, me semble la chose absolument essentielle de votre livre, c'est-à-dire cette ligne de crête qui consiste à essayer de définir ce que nous avons en commun entre êtres humains, tout en permettant que chacun puisse déployer une forme de diversité, enfin son identité propre, sans que cette identité soit figée. C'est-à-dire, or, il me semble que nous sommes dans une époque où justement cette vision dialectique est totalement inexistante et qu'il faut être d'un camp ou de l'autre.
Vous avez tout à fait raison, on oppose l'universalité qui serait abstraite, qui serait purement formelle, avec la diversité culturelle qui serait notre enracinement. Alors non seulement je ne les oppose pas, mais je dis que l'un est la condition de l'autre. Et c'est un des fils conducteurs du livre, de dire, par exemple, qu'il n'y a pas de diversité culturelle possible sans un universel de second niveau qui les englobe. L'exemple le plus simple qui vient à l'esprit, c'est celui de la laïcité. La possibilité d'exercer un culte suppose la liberté de l'exercer et donc la possibilité de la diversité des cultes. Et sans cet universel de second niveau, vous n'avez pas de liberté et donc d'enracinement dans une religion, dans une culture définie.
Juste pour compléter, comment voyez-vous le fait qu'on voit aujourd'hui, même dans les journaux partout, des articles se demandant, par exemple, si les produits du monde sont racistes, si les mathématiques sont racistes parce qu'elles sont issues de l'Occident, s'il faut continuer à préserver, justement, je parlais de la science au début exactement pour ça, s'il faut continuer à préserver cette prédominance de la rationalité parce que la rationalité, ce serait occidentale. Et tout votre livre est une réponse aussi à cette remise en cause de tout ce qui nous rend possible une humanité commune.
Francis Wolff.
Oui, en effet, c'est une réponse. Pour la raison suivante, c'est que je mets en œuvre, si je puis dire, ce que j'estime être le propre de la raison, c'est-à-dire la faculté de discuter, de dialoguer. Or, je pars de ces critiques dont j'estime qu'elles ont un véritable fond de légitimité et que si les gens y adhèrent, c'est parce qu'elles sont en partie vraies, mais en partie seulement. Il est clair que l'universel a souvent servi de masque ou de cache-sexe aux entreprises totalitaires, aux certaines formes de colonialisme. Il est vrai que l'universel purement formel dissimule des inégalités de fait qui sont parfois aussi graves que les entorses purement formelles. Tout cela est vrai. Et donc, il faut commencer par le concéder avant de remettre en selle, si je puis dire, les idées universelles. J'ajoute un point. Vous avez bien noté que je défends une forme de rationalisme dialogique dans la mesure où c'est une rationalité qui se construit avec l'autre par la négation et par le débat. Eh bien, je pense qu'en suivant cette ligne, nous réconcilierons, et c'est le grand défi de ce livre, l'universel et les raisons particulières.
Et on va y revenir. Alors, d'abord, Gilles Finkelstein.
Une des critiques précisément que vous adressez, pour le coup, à une partie de la gauche, est que, au nom de combats spécifiques, le combat pour l'égalité des genres, le combat pour les droits des homosexuels ou des communautés LGBT, etc., etc., elle en vient à nier l'universel lui-même. Est-ce que dans l'autre sens, ce ne sont pas aussi des combats qui sont fondateurs de l'identité de la gauche, et est-ce qu'ils ne peuvent pas être aussi considérés comme le prolongement de l'universel ?
Francis Wolff.
Oui, je fais la même réponse, c'est que l'un est la condition de l'autre. C'est-à-dire que je ne connais pas de combat légitime du droit des femmes, mais de l'égalité des hommes et des femmes. C'est deux choses tout à fait différentes. C'est-à-dire que d'un côté, on militerait pour des droits propres à des minorités, or je ne pense que les minorités en question luttent en réalité, ou sinon je ne comprends pas leur lutte, pour en vue de l'universalité. Je dis toujours, les luttes féministes, leur cadre de légitimité, c'est qu'elles ne veulent pas imposer le matriarcat à la place du patriarcat, mais qu'elles veulent imposer un type de société dans lequel il y ait égalité des hommes et des femmes. Et ceci s'applique à toutes les formes de minorité.
À ceci près que c'est justement, me semble-t-il, toute la difficulté sur un sujet comme le féminisme, où l'on voit qu'il faut articuler l'égalité et la différence. Et il existe des différences biologiques que nous ne maîtrisons même pas, à savoir par exemple les questions hormonales. Comment penser une égalité, c'est-à-dire tout ce qui va nous rassembler, tout ce qui en effet est universel, tout en tenant compte de ces différences qui, si elles sont niées, justement, peuvent impliquer une forme d'inégalité. C'est ça toute la difficulté sur les questions féministes.
Tout à fait, et je ferai encore une fois le même type de réponse, du moins c'est celle que j'essaie de développer dans le livre. C'est-à-dire, une des premières choses que nous expliquons, nous autres professeurs de philosophie, à nos étudiants, c'est la différence qu'il existe entre la différence et l'inégalité. Et que nous sommes tous différents, par définition, et nous avons même nos petites différences auxquelles nous tenons peut-être plus qu'à d'autres. Et il y a des grandes différences entre nous. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des différences d'orientation sexuelle. Il y a énormément de différences qui ne constituent pas exactement ce que j'appellerais mon identité, parce que mon identité, elle est multiple. Mon identité, elle est changeante. Mon identité, elle varie selon les moments, selon les lieux et selon les gens avec qui je suis, par rapport auxquels je me définis. Mais ces différences n'empêchent pas qu'il y ait une égalité de second niveau. Par exemple, nous discutons de façon égale. Par exemple, nous traitons de façon égale. Par exemple,
oui, si... mais ici, Francis Wolff, oui. Ici, au Grand Face à Face, sur France Inter, c'est la spécificité de l'émission, et je la revendique. Mais pour le coup, c'est un combat que vous avez perdu. C'est pas comme ça que ça se passe dans l'espace public. C'est pas comme ça que ça se passe. Cette raison dialogique dont vous parlez, en l'occurrence, elle est balayée par les polémiques, elle est balayée par ceux qui revendiquent non pas une identité complexe, multiple, changeante, mais une identité figée, français, chrétien, que sais-je, peu importe. Mais c'est ça la réalité pour le coup. Et comme vous faites un plaidoyer pour l'universel, c'est comme si vous étiez un avocat à un procès qu'il a perdu d'avance.
Ah, perdu d'avance, c'est vous qui le dites. Je ne pense pas qu'il soit perdu d'avance. Sinon, je n'aurais pas mené ce combat. Et je crois que nous sommes nombreux à le mener. Apparemment, nous sommes quatre ici dans ce studio.
Et
nous
c'est un
quatre.
Début.
C'est un début. Nous pouvons commencer.
Oui, mais une mauvaise langue vous répondrait que vous êtes un homme blanc de plus de 50 ans.
Tout à fait.
Et que donc votre plaidoyer pour l'universel est en fait un plaidoyer pour votre position dominante.
Alors, c'est en effet un des arguments qu'on entend souvent et auquel je m'efforce de répondre tout au long
oui,
du livre. C'est même un de ces objets essentiels. Non, je ne crois pas que le combat soit perdu. Et je vais vous donner un exemple, Ali Badou. Même si, en effet... le mal comme ça de temps en temps a l'air de triompher, la polémique stérile, les injures sur les réseaux sociaux au lieu du débat. Mais je ne plaide pas pour une espèce d'humanisme bêlant, comme on dit, dans lequel disent « Ah, dialoguons ». Non, ce n'est pas ce que je dis du tout. Je dis, nous sommes des êtres de dialogue et nous sommes humains parce que nous pouvons parler. Mais vous pouvez aussi bien parler par Internet à quelqu'un qui est en Corée du Nord qu'à quelqu'un qui est à vos côtés. Ce que je dis simplement, je vais vous donner...
Enfin, en Corée du Nord, c'est un peu compliqué, mais disons que votre exemple pourrait s'appliquer à la Corée du Sud, en tout cas.
On peut le faire. Je vais vous donner un exemple, Ali Badou. Pourquoi l'universel, il est plus universel qu'on ne pense en dépit des apparences. Vous avez un voisin, par exemple, qui s'installe à côté de chez vous. Vous ne le connaissez pas, il ne vous connaît pas. Vous n'avez aucune raison de lui en vouloir. Vous n'avez aucune raison d'être agressif, ni d'ailleurs d'être empathique à son égard. Il vient vous demander un service, vous lui rendez éventuellement un service, vous lui dites bonjour, bonsoir, bref. Vous avez des relations humaines, et ces relations sont a priori fondées sur l'égalité et la réciprocité. Ce n'est pas par empathie, ce n'est pas par émotion, ce n'est pas parce qu'il m'émeut, ce n'est pas parce qu'il est blanc comme moi, je n'en sais rien, mais c'est parce que, humainement, je rencontre quelqu'un, je lui parle, il me parle, et nous rentrons dans quelque chose qui est une relation humaine d'égalité et de réciprocité. Et cet exemple avec ce voisin, comme il vaut, non pas pour nous quatre qui sommes dans le studio, mais pour tout voisin possible, eh bien, il est universalisable.
Un autre point que je voudrais évoquer, qui est un point très important de votre livre, dans le prolongement de trois utopies contemporaines qui étaient votre précédent livre, vous disiez tout à l'heure qu'une des critiques qui était adressée à l'humanisme était qu'il était trop occidental, trop, on l'a évoqué, et aussi parfois qu'il était trop peu, et notamment qu'il ne se préoccupait pas suffisamment des animaux. Et c'est là-dessus que je voudrais vous interroger, quelle est l'attitude, la position d'un humaniste par rapport aux animaux? On voit que cette cause animale gagne beaucoup dans l'opinion, on a même vu un parti animaliste se présenter et faire un score significatif aux dernières élections européennes. Vous dites que il faut être avec les animaux dans une logique des devoirs et non des droits. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que, quelle que soit l'éthique que nous avons vis-à-vis des animaux, ce ne sont pas des personnes. Et que les relations que nous avons avec les personnes sont incommensurables, puisqu'elles sont fondées sur l'égalité et la réciprocité. En revanche, il y a deux choses qui peuvent arriver qui sont mauvaises pour les animaux. Les prendre pour des choses, ce que font certaines formes d'élevage industriel, qui les réduit à des machines à produire de la viande et des déjections, et les prendre pour des personnes. Parce que si on commence à les prendre pour des personnes, premièrement, alors c'est qu'elles sont responsables, et donc il faudrait faire à nouveau des procès aux animaux. Et lorsqu'on prend les animaux pour des personnes, eh bien il y a des grandes chances qu'on commence à prendre les personnes pour des animaux. Je vous dirais tout simplement que les relations que nous devons avoir avec les animaux, eh bien, elles sont fondées sur des formes qui s'apparentent à celles que nous avons, qui s'apparentent seulement de loin à celles que nous avons avec les êtres humains. Évidemment, vis-à-vis de mes chiens et de mes chats, j'ai des relations affectives. Et si je romps le contrat affectif que j'ai avec mon chien ou mon chat, en l'abandonnant sur une aire d'autoroute, je romps une sorte de contrat moral que j'avais avec lui. Et le contrat de domestication qu'on a avec les animaux depuis 10 000 ans consiste à pouvoir les élever dans des conditions qui répondent aux exigences de leurs espèces.
Il reste une minute, on va malheureusement devoir rendre l'antenne. Natacha, d'un mot ?
en une minute, je ne pourrais pas poser la question que je voulais poser sur la neutralité axiologique des démocraties libérales et la question de savoir s'il peut y avoir dans le système actuel qui est le nôtre, qui est un système consumériste fondé sur le libre exercice du droit et du marché, quelque chose comme une forme d'humanisme. Je pense que la question est un peu trop longue.
Mais c'est bon signe, Francis Wolff. Rester sur une question et sur un peu de frustration, c'est le signe que le dialogue a suscité beaucoup d'intérêt et chez Natacha et chez Gilles, votre livre également. Merci infiniment d'avoir été notre invité. Plaidoyer pour l'universel, donc le combat n'est pas perdu. Vous restez optimiste?
Je reste optimiste, sinon je n'aurais pas écrit ce livre et je ne serais pas philosophe.
Eh bien écoutez, en tout cas le livre est publié chez Fayard, Natacha et Gilles. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci à Paola Purari qui a préparé cette émission, à la réalisation Marie Mérier, à la technique cette semaine Clément Vuillet. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain midi pour Questions politiques avec Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT.